le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours. Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole.
Alors ça, je vois comment on pas.
Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites,
monsieur? Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite?
Et si j'ai encore une petite fin, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Et puis alors vite, parce que je suis très pressé.
Ce sera rapide, monsieur.
Non, vous me laissez, mon Dieu.
Très pressé, nous le sommes tous aujourd'hui. Dans l'actualité des idées, ce que manger dit de nous, alors que le repas et les repas sont de plus en plus considérés comme une perte de temps, il rappelle l'importance de ce moment de partage au cœur des relations sociales depuis des millénaires. Notre invité aujourd'hui, Jacques Attali, économiste et essayiste, président de l'ONG Positive Planète, spécialisé dans la microfinance. Il publie aujourd'hui chez Fayard une histoire de l'alimentation après, comme il l'écrit, avoir étudié et raconté bien d'autres histoires longues, celles de la musique, de la médecine, de la mesure du temps, de la propriété, du nomadisme, de l'amour, de la mort, de la géopolitique, de la technologie, du judaïsme, de la modernité, des labyrinthes, de la prévision, de la mer. Voici donc l'alimentation et c'est un autre voyage à trois temps, passé, présent et avenir, qu'il a entrepris sur les relations homme-nourriture à la source de la plupart des mutations majeures de l'espèce humaine. Un essai né, un peu, du sens des choses, une série de 8 émissions pour répondre à la question de quoi manger est-il et sera-t-il le nom. Une série diffusée à l'été 2017 sur France Culture. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Alors, première question très simple, mais peut-être la plus compliquée. À quoi ressemble la France d'aujourd'hui dans l'assiette? Avant de remonter le temps, avant de raconter cette histoire qui nous lie aussi aujourd'hui et qui explique nos pratiques et nos traditions, la manière dont on a pu ritualiser ce repas, à quoi ressemble, si on devait faire une photographie en 2019, la France vue de l'assiette?
La France est à la fois très différente du reste du monde parce que elle est encore un pays où on passe du temps à table, plus de temps qu'ailleurs. Elle est un pays où on passe du temps à cuisiner, plus de temps qu'ailleurs. Mais malgré tout, c'est un pays extrêmement inégal, entre ceux qui n'ont pas de quoi manger du tout, ceux qui ont de quoi manger très bien, et ceux qui ont basculé dans la nourriture industrielle, ou qui ont basculé, pire encore, si j'ose dire, dans le non-repas, qui est la règle qui s'installe un peu partout à travers la planète. C'est-à-dire le fait que le repas a disparu, et que on mange quand on peut, comme on veut, seul, à la volée, à la sauvette. Ceci gagne aussi la France, même si ça le gagne moins, ça la gagne moins que les autres pays, et que la France se défend tant dans la qualité de sa nourriture que dans le temps qu'on y consacre et dans les conversations qu'on y noue.
Et pourtant, il y a une fierté française, une identité française presque à travers ce repas.
Hein, sans aucun doute. La France est d'ailleurs le seul pays dont la nourriture, enfin le repas, a été considéré comme un élément du patrimoine mondial. Je pense même que si on définit l'art d'être français, le repas fait partie, est au cœur de l'art d'être français. C'est un moment particulièrement important. Aussi parce que très profondément, ça renvoie à la nature de la société française. La France, je l'ai souvent écrit, aurait pu choisir d'être un pays maritime, elle a choisi d'être un pays rural. Beaucoup de défauts de ce choix, tragique, pour bien des dimensions, qui a empêché sa modernité, mais bien des avantages. La qualité de la nourriture, l'enracinement, le rapport au territoire, le rapport au lieu, et le fait qu'on a gardé une certaine méfiance, plus qu'ailleurs, à l'égard du capitalisme, et donc on s'est défendu de l'envahissement du temps par la marchandise. Or, un des lieux qui est les plus subversifs à l'égard du capitalisme, c'est le moment du repas, puisqu'à la fois on n'y travaille pas, et on y consomme peu, sauf les aliments qu'on y mange. Donc c'est un lieu que le capitalisme a toujours combattu, le capitalisme d'État aussi, puisque dans l'Union soviétique c'était pas mieux, on l'a toujours combattu, et la France, en étant rurale, c'est-à-dire pré-capitaliste et non pas post-capitaliste, s'est défendue mieux que d'autres contre l'envahissement du repas par la marchandise.
Enfin, vous dites que c'est un lieu où on ne travaille pas. Il y a aussi les repas d'affaires. C'est très français, mais pas uniquement. Et vous rappelez, dans cette histoire de l'alimentation, que les grandes affaires politiques, la chose politique, oui. Beaucoup de grands destins se sont aussi noués autour d'une table. Hein.
Oui, quand on regarde l'histoire de l'humanité, depuis toujours, enfin, depuis qu'on peut à peu près percevoir quelques traits de la vie en commun, On voit que le repas est un lieu très important d'organisation du pouvoir. Les repas des dieux, les repas des hommes avec les dieux, les repas des puissants. Le fait que les puissants doivent donner à manger à leur peuple, sinon ils sont renversés. Tout ça est vraiment structurant. Et progressivement, on est passé des repas des dieux au repas des empereurs, des repas des empereurs au repas des repas des rois au repas des bourgeois, et donc au repas d'affaires. Et progressivement, ces repas de pouvoir se sont dissous dans la société dans son ensemble.
Vous avez le souvenir, vous, d'un ou deux repas qui ont été très importants dans votre parcours ?
Des repas ont été certainement des moments importants, de décisions très importantes. Donc je me souviens en effet de repas, d'une part de repas très spectaculaires, mais pas très importants.
C'est-à-dire ?
Par exemple, j'ai vu, en raison de mes fonctions, beaucoup de repas d'État, ce qu'on appelle les grands dîners d'État. Et les plus beaux que j'ai vus, puisque j'en ai vu plusieurs, c'est en Inde, où le repas d'État est absolument stupéfiant, par son agencement, ce balai, comme les repas à la cour d'Angleterre. Mais les repas politiques les plus importants auxquels j'ai assisté, c'était des repas extrêmement tendus à deux ou trois. Je me souviens en particulier d'un repas entre François Mitterrand et Gorbatchev, auquel j'ai assisté, qui était un moment tragique, où Gorbatchev nous a fait comprendre qu'il n'avait que le pouvoir, lui, échappait des mains, et c'était très important.
Dans cette histoire de l'alimentation, Jacques Attali, vous vous intéressez particulièrement à la dimension patrimoniale du manger, du repas. Ce repas français qui est le produit d'une histoire, et vous venez de l'évoquer rapidement, des banquets du roi Soleil aux banquets révolutionnaires. Il y a peu de monarques, écrivez-vous, qui ont autant ritualisé ce moment, ce rapport à la nourriture que Louis XIV l'a fait, à partir de son accession au trône.
Oui, alors c'est très intéressant parce que le repas dominant mondial, c'est le repas chinois, pendant très longtemps, qui glisse vers le repas arabe, qui lui-même glisse vers le repas italien, à chaque fois que le pouvoir bascule vers cette partie du monde. Et quand le repas italien bascule vers autre chose, ça aurait dû être vers le repas flamand, ou le repas anglais qui prenait le pouvoir à l'économie mondiale. Mais étonnamment, c'est le repas français qui a pris le pouvoir fin 17e siècle, début 18e, et qui l'a gardé, et on a échappé à la domination mondiale du repas hollandais ou anglais. Et puis après, on a vu arriver le repas américain. Mais en effet, Louis XIV prend le pouvoir et dit, comme d'ailleurs tous les autres l'ont fait avant lui, son pouvoir par son repas, comme l'ont fait les religions d'ailleurs, qui disaient une grande partie de leur rituel par le repas. Et Louis XIV organise le repas français qui va devenir vraiment un élément essentiel du soft power français, en imposant des règles d'humiliation de la noblesse, de pouvoir absolu, de transparence, de naturalité, qui vont progressivement s'installer et qui vont ensuite être récupérés par les nobles quand ils vont prendre le pouvoir contre le roi, assez vite d'ailleurs, et qui vont faire basculer le repas de Versailles vers les repas des nobles à Paris, puis le repas des restaurants, des bourgeois dans les restaurants qui vont imiter les nobles. Et progressivement, c'est le repas de Louis XIV qui va structurer le repas français jusqu'à aujourd'hui.
Et qui reste, voilà, jusqu'à aujourd'hui. La tendance. Il y a eu un certain nombre d'interdits alimentaires que l'Église a fini par lever. Vous citez Saint Matthieu, « Rien d'extérieur à l'homme ne peut le souiller en le pénétrant. Par contre, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme.
» Oui, c'était la rupture de l'Église catholique avec les interdits juifs, qui fait partie de l'ensemble du laxisme, si j'ose dire, chrétien, des libérations à l'égard des contraintes du judaïsme pour faire en sorte que le christianisme devienne universel. Mais évidemment, il y a eu une conservation d'un certain nombre d'interdits, le maintien de certains jeûnes, et on a vu ensuite, dans d'autres religions comme l'islam, apparaître tout un autre ensemble d'interdits. Le religieux, ensuite, aussi se préserve de certaines nourritures qui sont considérées comme nocives parce qu'elles créent trop de plaisir. Et on a vu en particulier apparaître l'opposition au chocolat, par exemple, de l'Église catholique, qui a considéré que le chocolat était vraiment diabolique pendant très longtemps.
Est-ce qu'il y a un jour où nous avons cessé de confier aux plus puissants le soin de nous nourrir ?
Non, les puissants ont changé, c'est tout. À partir de la fin du 19e siècle, on voit apparaître une évolution qui vient des États-Unis, qui est absolument extraordinaire. En fait, les États-Unis auraient dû être le paradis de la nourriture, parce que les migrants qui arrivaient d'Europe, affamés au sens propre, découvraient un pays de cocagne en termes agricoles ou d'élevage, et avaient tout pour se nourrir bien. Mais le développement de l'industrie a créé une convergence avec une idéologie protestante qui considérait que le plaisir était mal vu, malsain, péché, et donc il fallait interdire tous les plaisirs, y compris celui de la table. Et on voit se développer une nourriture fade, volontairement fade, qui vient interdire les plaisirs, d'où l'invention du cornflakes, qui est explicitement faite pour limiter la libido, et qui va progressivement s'installer pour devenir une sorte de complice du capitalisme, puisque si le repas est fade, on va y passer moins de temps, et donc c'est tout bénéfice pour l'industrie qui pourra utiliser l'argent que les gens ne dépenseront pas au repas et le temps que les gens ne perdront pas à manger pour faire autre chose, c'est-à-dire créer du profit. Ceci va être un peu compensé par l'émergence de moyens de rendre cette nourriture fade acceptable, et ça se joue vers les dernières années du 19e siècle par l'alliance entre M. Kellogg et M. Heinz, l'invention du cornflakes et l'invention du ketchup, qui va structurer la nourriture américaine du 20e siècle.
Mais vous iriez jusqu'à dire, certes il y a une influence sur ce modèle d'alimentation américain, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le capitalisme alimentaire américain a inventé la diététique, ou c'est quelque chose qui existait déjà quand même auparavant?
La diététique existe depuis toujours, ouais. Elle est absolument fascinante. D'ailleurs, je sais retracer depuis les Mésopotamiens ce que les médecins du temps disaient. Les médecins chinois avaient des recommandations très particulières, les médecins indiens, la médecine ayurvédique avait des choses très précises à dire, les Grecs bien sûr, les Romains, et on trouve des choses assez communes. Bon, il y a des choses contradictoires entre eux, mais il y a des choses assez communes sur ce qu'on peut manger, ce qui donne du plaisir, ce qui donne de la force, et j'essaie de résumer d'ailleurs, de regrouper tout ça dans quelques conseils à la fin du livre, où on trouve que cette sagesse millénaire est encore très utile.
Et pourrait nous inspirer aujourd'hui. C'est vrai que c'est en Mésopotamie, et vous le rappelez, que le repas devient aussi une affaire commune. Un temps où l'on associe le langage et la nourriture. Un banquet pour débattre, un banquet pour célébrer. C'est aussi le début des arts de la table. Déjà, les premières recettes qui commencent à apparaître avec une pratique qui va se hiérarchiser. On a tendance à imaginer que la ritualisation du repas rime avec sédentarisation.
C'est à peu près cette période-là.
Hein.
C'est certainement. La sédentarisation, c'est donc 5-6 000 ans avant notre ère, qui commence autour des fleuves, le Nil, les fleuves de Mésopotamie et les fleuves chinois, et la sédentarisation crée assez vite les besoins de barrages pour irriguer les terres, et les barrages supposent que les villages ne sont pas indépendants mais sont regroupés, donc la naissance d'empires qui est la conséquence de cette sédentarisation, dont l'élevage est la conséquence, puisque l'élevage est une invention des agriculteurs et pas l'inverse. Et donc on voit structurer cela d'abord en Mésopotamie, puis en Égypte, puis bien plus tard en Chine, contrairement à ce qu'on dit, la Chine n'est vraiment structurée que plus tard. Et en effet, on voit apparaître à la fois des recettes, des repas interminables sur plusieurs jours, donc on a des récits assez détaillés, on voit apparaître aussi l'alcool, on voit apparaître toute une série d'une variété incroyable de nourriture, puisque on utilisait à cette époque, tant là qu'en Amérique, dans le monde amérindien, qu'on connaît maintenant, mais qui existait déjà à cette époque, bien sûr, même si à cette époque on ne le connaissait pas, des plantes d'une variété incroyable, insoupçonné par rapport à aujourd'hui, puisque on utilisait sans doute entre 5 et 6 000 différentes formes de légumes ou de végétaux, à la différence de quelques centaines ou peut-être quelques dizaines aujourd'hui.
Besoin vital, la nourriture est aussi source de plaisir, et vous le rappelez, c'est aussi la nourriture qui est au fondement du langage, une dimension essentielle de l'érotisme et une activité économique majeure. Comment avez-vous procédé, Jacques Attali? La littérature est-elle abondante sur le sujet? On va faire juste d'abord un petit état des lieux des food studies à la française avec le sociologue Thibaut de Saint-Paul, auteur de Les enjeux sociaux des cuisines du futur et alimentation de demain.
On observe que l'alimentation dit beaucoup de choses sur une société, et c'est vrai dans l'ensemble des pays, des cultures de par le monde. Les études autour de l'alimentation, elles se sont développées quasi simultanément et de manière un peu différente aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on appelle les food studies, c'est surtout le versant américain, issu des cultural studies et très influencé par notamment la littérature, mais qui est très pluridisciplinaire. Alors qu'en Europe et notamment en France, les études se sont développées très à l'intérieur de chaque discipline. Une sociologie de l'alimentation, une anthropologie de l'alimentation, une histoire de l'alimentation, même si les liens sont tissés entre eux. Mais dans l'approche américaine, les frontières sont moins importante. On se centre autour de l'objet et on cherche à le cerner par différentes approches. Mais c'est aussi beaucoup plus complexe d'aller au fond des différents enjeux, de maîtriser l'ensemble des connaissances, des paradigmes de la littérature, à la psychologie, à la sociologie. Donc on a parfois des gens qui travaillent sur le même sujet sans parfois se comprendre ou en ayant l'impression de parler de la même chose sans que ce soit le cas. En France, au contraire, à l'origine, c'est quand même plutôt cloisonné, c'est lié à l'organisation de l'université en France, et on est toutefois sur un sujet qui oblige à tisser des liens entre des spécialistes qui ne parlent pas forcément habituellement ensemble.
Alors il y a une grosse bibliographie à la fin de votre ouvrage, Jacques Attali, de votre histoire de l'alimentation, pas que des références françaises d'ailleurs, vous êtes allé puiser un peu dans toute la littérature disponible. Est-ce que ça a été compliqué de rassembler tout ça?
Vous non, constatez aussi quête, que c'est très épars. C'est une méthode que j'ai employée, comme vous l'avez dit, dans d'autres domaines, où j'essaye de faire des histoires longues et globales. Il faut lire beaucoup. Il y a en effet beaucoup de littérature française. Il y a en particulier l'histoire de l'alimentation. Le mien s'appelle Histoire avec un S. Et il y a une histoire de l'alimentation qui est un recueil de textes de spécialistes qui est publié par Fayard il y a de longues années, qui est quand même, qui reste une référence dont j'ai longuement cité dans ce livre. Et il y a énormément d'études. Mais en effet, comme le disait celui qu'on vient d'entendre, ça va dans tous les domaines. On a besoin d'archéologie, on a besoin d'ethnologie, on a besoin d'anthropologie, on a besoin de neurosciences, parce que la naissance du langage, en effet, est liée à la naissance, à l'évolution de la nourriture, puisque l'évolution de la nourriture fait qu'on consomme moins d'énergie dans l'intestin, et donc l'énergie peut monter au cerveau, et le cerveau peut se développer. C'est comme ça qu'on a basculé vers l'humanité et le langage. Et il y a un lien très profond là à comprendre. Et puis ensuite, on trouve en effet des choses sur l'alimentation et sur le fil conducteur qui m'a aveuglé, à savoir entre l'alimentation et la conversation, qui structure l'un et l'autre. On trouve ça, il suffit de creuser, de chercher. Quand on tombe sur quelque chose, il faut chercher les références qui y amènent. Et c'est une quête infinie, évidemment.
Mais c'est intéressant que ce soit quand même les Américains qui aient inventé ces food studies, comme il y a les gender studies. C'est-à-dire qu'en France, tout était assez éclaté, fragmenté dans les recherches.
C'est très fragmenté. C'est très fragmenté.
De croiser des approches.
C'est évidemment en France qu'on doit le faire plus qu'ailleurs, puisque c'est nous qui avons dans ce domaine une sorte de prééminence historique et culturelle qui fait que ce domaine devrait être essentiel. D'ailleurs, les cuisiniers, les grands cuisiniers qui écrivent s'en rendent compte quand ils essayent d'enraciner leurs recettes et leurs livres de cuisine dans l'histoire de la gastronomie.
Jacques Attali, dans ses histoires de l'alimentation, vous rappelez comment manger est devenu petit à petit une pratique de plus en plus solitaire, une activité presque secondaire qu'on expédie. Mais c'est finalement assez logique dans nos sociétés peut-être productivistes que le repas soit considéré aussi comme un temps mort, un temps où on ne travaille pas, un temps où on ne produit pas. Vous évoquiez tout à l'heure les liens entre la diététique et le capitalisme alimentaire. En France aussi, on a tendance à réduire de plus en plus ce temps qu'est celui du manger, du repas, pas au profit d'autres activités jugées plus rentables,
oui, productives. Le repas est subversif. Repas est subversif parce qu'il prend du temps sur la marchandise. Et on a vu d'abord se structurer les repas qui n'étaient pas aux mêmes heures qu'ils sont aujourd'hui, puis ces heures bouger et ces heures se réduire. Et encore une fois, la France conserve une durée totale des repas plus grande que d'autres, mais en même temps, elle est victime de la même évolution. On ne prend plus le petit déjeuner ensemble, le déjeuner n'est même plus pris dans les cantines, mais au bureau d'un sandwich volé face à son écran, et on mange de plus en plus en marchant, et même à la maison le soir, beaucoup de gens mangent séparément, ce qui participe de la rupture de la famille tout en étant lié à elle. Donc il y a cette évolution très très profonde et très inquiétante, qu'on voit d'ailleurs se développer aussi dans l'urbanisme, puisque dans là où les espaces sont coûteux, on a vu disparaître la salle à manger aux États-Unis, ça s'est appelé living room, qui est une façon pudique de dire que la salle à manger a disparu. Puis on a appelé ça en Europe la cuisine américaine, qui est une façon de dire la même chose. Et progressivement, on voit même maintenant dans certains immeubles disparaître la cuisine, puisqu'on ne fait plus de cuisine, il suffit d'avoir un endroit pour réchauffer les choses ou qu'on a acheté en commandant à distance pour gagner de l'espace, qui est si coûteux dans l'urbanisme moderne. Donc cette tendance se poursuit, elle est à mon avis un grand combat social. Je pense que regagner du temps, maîtriser ce temps, le gagner, le temps qu'on doit partager, c'est aussi une question de santé, parce que si on mange trop vite, ce qui est aussi un défaut que j'ai pour ma part, c'est pas bon pour la santé. Manger en prenant son temps, manger si possible pas seul, s'interrompre pendant une partie de son repas pour parler, discuter, réfléchir, méditer peut-être, permet à la fois d'atteindre plus vite la satiété, donc de moins risquer les conséquences d'aujourd'hui qui sont l'obésité et les maladies liées à mauvaise nourriture.
En suivant la courbe de cette tendance, Jacques Attali, vous semblez y voir aussi les prémices dans cette pratique de plus en plus solitaire d'une société de l'hyper ou de l'autosurveillance. Qui pourrait maîtriser demain les données de nos comportements alimentaires ?
Ça fait très longtemps que de livre en livre, je pointe la montée de cette hyper-surveillance et de cette autosurveillance. C'est-à-dire le fait que, dans beaucoup de domaines de notre vie, on va nous demander de nous surveiller pour ne pas mourir, parce que c'est la peur principale, et on peut faire à peu près n'importe quoi aux hommes en les menaçant de la mort. Et c'est très simple, il suffit déjà, on le voit, de nous imposer, de nous peser, parce que le poids est important, de nous imposer, ce qui est normal, et ce que chacun doit faire, d'aller, et ça ira jusque des primes d'assurance qui sont liées à ce qu'on consomme, et l'assureur le connaîtra, parce que les assureurs vont être de plus en plus liés à ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire à ceux qui maîtrisent les données.
Mais on pourrait imaginer une connexion directe entre notre frigo et une compagnie d'assurance.
C'est très facile à imaginer. Les produits alimentaires auront bientôt des puces qui en feront des éléments de ce qu'on appelle l'Internet des objets. On saura ce qu'il y a dans votre frigidaire, on saura ce que vous en sortez, et on pourra vous dire, non, là vous avez mangé deux yaourts sucrés et une barre chocolatée, c'est beaucoup trop. Nous ne continuerons pas à vous assurer ou nous augmenterons votre prime d'assurance si vous continuez comme ça. Ça viendra.
Et qui aura intérêt à ce que ça arrive, parce que vous rappelez aussi que la politique s'intéresse beaucoup à cette question du repas, du manger, et entend aussi, dites-vous, nous orienter vers d'autres enjeux, voire d'autres peurs. Qui a intérêt à contrôler et à maîtriser aussi nos envies, nos revendications ?
Là encore, il n'y a pas de maître marionnettiste. Il y a à la fois un système marchand qui a intérêt à créer les conditions pour que la nourriture coûte le moins cher possible pour pouvoir faire autre chose, alors que une grande bataille utile serait de revendiquer le fait qu'une part plus importante de son pouvoir d'achat doit être consacrée à la nourriture, et non pas à moindre. Je pense que ça doit être une grande revendication, à pouvoir consacrer une part plus grande de son pouvoir d'achat, et non pas moindre, à l'alimentation, mieux contrôler ce qu'on y fait. Ça, c'est une grande bataille. Maintenant, le politique aussi y a intérêt, parce que pratiquement toutes les révolutions se sont faites autour de l'alimentation. Depuis les Égyptiens, on a des textes égyptiens que je cite qui montrent qu'ils avaient déjà compris les risques de coup d'État liés à la famine. Et évidemment, la Révolution française, mais même l'arrivée d'Hitler au pouvoir et beaucoup d'autres événements historiques sont liés à la peur du manque alimentaire. Et aujourd'hui, on le voit encore un peu partout à travers le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré l'abondance, malgré l'obésité, il y a quand même 1 milliard de personnes qui vont s'endormir ce soir en ayant faim. Et des enfants qui meurent de faim tous les jours et à chaque seconde.
Avec des nouvelles égalités, probablement, en perspective. Juste revenir sur ce temps qu'est le repas, temps politique aussi. C'est pendant des repas que s'est déterminé, écrivez-vous, l'essentiel de l'organisation des empires, des royaumes, des nations, des entreprises et des familles. Des banquets avec les dieux au repas d'affaires. Tout s'est décidé, tout se décide encore pour manger et en mangeant. Et ça, l'histoire, d'ailleurs, souvent ne le retient pas. C'est Laurent Godet, le romancier, qui invite aujourd'hui à reconstruire l'Europe autour d'un grand banquet des peuples. Est-ce que la gastronomie fait partie, pour vous, Jacques Attali, aujourd'hui, de la culture, de notre culture commune?
Essentiellement, elle est essentielle, absolument fondamentale. On le voit d'ailleurs dans tous les peuples, car vous pouvez nommer les Indonésiens, les Thaïlandais, les Mexicains, les Péruviens à partir d'un ou plusieurs plats. Et en France en particulier, la gastronomie est essentielle. Dans ce qu'on appelle l'art d'être français, je mettrai au premier rang notre gastronomie, notre extraordinaire diversité qui vient de chaque province, notre fabuleuse passion pour cette nourriture, les merveilleux paysans, les merveilleux transformateurs, les merveilleux cuisiniers qu'on a un peu partout, pas seulement les grands chefs les plus connus qui sont des grands artistes, mais un peu partout. On a cet amour qui fait partie de cette culture française.
Oui, mais est-ce qu'il y a une gastronomie européenne pour vous ?
Il y a gastronomies de chaque nation. Il n'y a heureusement pas un plat national européen, mais il y a des plats de chaque province, de chaque région. La diversité est essentielle. L'Europe doit évidemment conserver cette diversité et la vivre. S'il y avait un repas plat européen aujourd'hui qu'on devrait nommer, il serait américain, donc il faudrait mieux éviter qu'il apparaisse.
Jacques Attali est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de ses Histoires de l'alimentation, publiées chez Fayard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
13h21 sur France Culture. On est en 2022. Les ressources naturelles sont à sec. Seule possibilité pour se nourrir, ingurgiter un soleil vert, une sorte de pastille galette qui va pouvoir aider à tenir le coup. Extrait du film Soleil vert, sorti en 73.
Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre?
On se croirait dans un four. On crève à force de transpirer.
Tu sais que tu m'agaces.
Prends du soleil vert et calme-toi.
Je l'ai fini, hier au soir. J'avais faim, comprends-tu?
Mardi, je vais essayer d'en piquer encore.
Oui, c'est ça.
50 ans plus tard, la prophétie de Richard Fleischer ne s'est pas réalisée. On est en 2019, donc à 3 ans de l'échéance, et nous ne mangeons en tout cas pas pour l'instant encore de soleil vert. Mais que mangera-t-on dans 30 ans? Vous vous êtes plus qu'essayé à des prévisions aussi dans cet ouvrage, à essayer d'imaginer, si on suit la courbe actuelle, ce que sera notre repas et de quoi il sera fait dans 30 ans. 9 milliards de bouches à nourrir, comment fera-t-on, Jacques Attali?
Il y a deux évolutions possibles. En effet, les tendances naturelles et ce qu'on pourrait vouloir. Les évolutions naturelles sont très inquiétantes parce que on va aller vers une pénurie d'eau, vers une pénurie d'incapacité à fournir aux 9 milliards d'habitants de la planète, dont le niveau de vie va monter ce qu'ils vont vouloir, c'est-à-dire une nourriture de type européenne, en tout cas occidentale, et on aura du mal à les satisfaire, donc on verra certainement apparaître des pénuries et des difficultés, et on verra apparaître un certain nombre de nourritures de substitution, comme on parle beaucoup des insectes qui nourrissent aujourd'hui 2 milliards d'habitants sur la planète. Je pense pas que ça va se développer beaucoup parce que on a besoin des insectes pour autre chose. Et parce que plus les gens sortent de la pauvreté, plus ils ont envie de se quitter la nourriture sous forme d'insectes qui représente pour eux le symbole de la pauvreté extrême. Mais on verra se développer les algues et se développer des nourritures artificielles très nombreuses. Donc, et évidemment une nourriture industrielle de plus en plus développée qui aujourd'hui est encore très petite au regard de ce qu'elle pourrait toucher comme habitant de la planète. Par exemple, la nourriture des bébés qui est encore le lait maternel pour l'essentiel de l'humanité pourra au pire, basculer vers une nourriture industrielle. Et si la nourriture devient industrielle pour les bébés, alors l'entrée dans la nourriture industrielle de toute la population après ce premier âge sera facilitée. Donc le risque est d'aller vers une nourriture industrielle suicidaire de bien des dimensions. Pour autant, on peut l'éviter. On peut aller vers ce que j'appelle une gastronomie positive, c'est-à-dire on peut nourrir 10 milliards d'habitants d'une façon qu'on pourrait appeler bio, à condition de changer très profondément les règles de l'agriculture, d'interdire un très grand nombre de choses qu'on autorise aujourd'hui à l'industrie agroalimentaire, en particulier interdire un grand nombre de sucres, en particulier les sucres liés au maïs qui ont fait le florès depuis quelques décennies dans l'industrie agroalimentaire américaine et européenne. Et si on imposait un certain nombre de règles, on pourrait aller vers une nourriture saine pour tout le monde, c'est tout à fait possible.
Mais vous êtes encore beaucoup au conditionnel. Si on prend le cas du Brésil, la ferme du monde, de la question des paysans sans terre au déboisement de la forêt amazonienne, c'est pas franchement la direction qu'on prend aujourd'hui.
Non, absolument. Hein. C'est pourquoi je dis que le scénario du pire est aujourd'hui le plus vraisemblable. Et le Brésil en est un exemple, puisque même si en France, on peut parler ou faire croire à une reforestation, par exemple, de la forêt française, qui est en fait une reforestation des marais par des pins et non pas d'une reforestation à l'ancienne qui aurait préservé la biodiversité. La déforestation du Brésil et de l'Indonésie ou d'autres parties crucial de l'Afrique renvoie à véritablement des dangers pour l'espèce humaine dans son ensemble. Et l'exemple brésilien montre que la catastrophe de la nourriture industrielle touche des régions du monde qui jusqu'à présent en étaient protégées.
Il y a des études qui montrent, et vous les citez, que notre salut alimentaire reposera demain entre les mains des petits propriétaires et des paysans. Or, il reste quand même aujourd'hui, et pas qu'au Brésil, en Europe aussi, souvent les moins protégés, les moins bien lotis du droit de propriété dans les pays en développement, aux subventions à l'agriculture qui vont plutôt vers les grandes exploitations et favorisent la monoculture dans les pays occidentaux. On dit que la future PAC en Europe pourrait encourager des agriculteurs plus vertueux sur le plan environnemental. Alors, oui, c'est la direction
la PAC, la PAC commence à comprendre qu'il faut cesser de favoriser excessivement le céréal pour développer l'agriculture bio et l'agriculture intelligente, qu'il faut peut-être aussi cesser d'organiser notre agriculture pour qu'elle envoie ses surplus en Afrique, de façon à laisser les Africains développer leurs propres produits agricoles et non pas vivre de nos déchets. C'est une transformation extrêmement profonde que les citoyens doivent décider, parce que les lobbies agricoles sont aujourd'hui extrêmement puissants et sont évidemment surtout des lobbies de très grande défense d'intérêts du passé et non pas de ceux dont on vient de parler.
Le véganisme, c'est une tendance qui devient mondiale. On a évoqué la question de la viande, et notamment des viandes artificielles tout à l'heure. On sait qu'il y a des projets de recherche en ce moment sur la composition de ces viandes qui peut-être pourront être une partie de la réponse, même si aujourd'hui ça nous fait un peu tirer la langue.
Sans aucun doute. Le véganisme sera un élément de réponse, d'autant plus qu'on ne pourra pas donner de la viande de bœuf à tout le monde en raison de la quantité d'eau que ça utilise, et aussi parce que ça correspond à des besoins qui sont inacceptables en termes d'évolution climatique. Les émissions de gaz à effet de serre des animaux sont une part importante des dangers climatiques. Donc on a intérêt à passer au véganisme avec évidemment un certain nombre de compensations. Je pense qu'on sera dans 50 ans très largement tous véganes. La question est de savoir si on le sera de façon autoritaire ou de façon culturelle volontaire.
Et vous pensez ?
Ben, je pense qu'on le sera aussi pour une autre raison, c'est que le bien-être animal va être de plus en plus pris en compte, qui aura d'ailleurs des conséquences inattendues, parce que le bien-être animal pourrait même préoccuper ceux qui respectent de façon tout à fait respectable les contraintes ou les règles religieuses. Et donc exiger d'autres formes d'abattage qui pourraient amener ceux qui veulent respecter ces règles d'abattage, qui seraient de plus en plus difficiles, à passer au véganisme. Oui, je pense en particulier aux juifs et aux musulmans.
Dans vos prévisions, il y a l'idée du triomphe des cuisines chinoises, indonésiennes et indiennes, en lien avec leur puissance politique, mais il y a aussi l'affirmation d'un marché des nourritures religieuses qui devrait continuer à augmenter significativement. La grande tendance, et on terminera là-dessus, Jacques Attali, finalement, est-ce qu'elle n'est pas là, dans ce rapport, dans cette frontière entre l'humain et le reste du vivant, qui est encore amenée à évoluer ?
Absolument, absolument. C'est dans cette réflexion sur ce que nous sommes et ce que nous faisons de la nature qui nous nourrit que se situe l'avenir. Et chérir et protéger ce qui nous fait vivre va être le cœur de notre défense de la civilisation.
Jacques Attali était l'invité de cette grande table des idées du lundi, Histoire de l'alimentation. Votre nouvel essai vient de paraître chez Fayard en coédition avec France Culture. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la grande table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweg qui a réalisé donc cette émission et qu'on retrouvera demain. Très bel après-midi à tous sur France Culture.